Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Aristide avec vous dans Le Monde aujourd'hui, en ce lundi 13 décembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique à la une de l'actualité ce soir. En RD Congo, le président Félix Tshisekedi pose des limites à la présence militaire ougandaise. En Éthiopie, les rebelles tigréens ont repris la ville emblématique de Lalibela dans le nord du pays. Rencontre historique entre le premier ministre israélien Naftali Bennett et Mohamed Ben Zayed, l'homme fort d'Abu Dhabi. Le patron de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, entame sa première tournée en Asie du Sud-Est, une région au cœur de la stratégie de Washington face à Pékin. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports d'environ 10 minutes. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'engage à veiller à ce que l'armée ougandaise, en intervention depuis la fin du mois dernier sur le territoire congolais, ne reste dans le pays que le temps nécessaire à la lutte contre les rebelles ADF. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est lors de son traditionnel discours annuel sur l'état de la nation devant le Parlement que le chef de l'État a évoqué officiellement pour la première fois l'intervention ougandaise sur le sol congolais. Ces opérations militaires ont été déclenchées le 30 novembre dans l'est du pays avec son accord. Le président Tshisekedi a affirmé sa détermination à ne ménager aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité dans cette région du pays en proie à la violence armée depuis plus de 25 ans. L'instauration de l'état de siège début mai a déjà permis de récupérer des bastions jadis occupés par l'ennemi, a-t-il affirmé. Mais selon le chef de l'État, le groupe armé des ADF écume spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, d'où l'importance de la mutualisation des efforts. Pour Kampala, ils sont responsables de récents attentats revendiqués par le groupe État islamique.
Toujours en RD Congo, des étudiants et chauffeurs de taxi ont manifesté à Goma aujourd'hui pour demander la libération de 3 habitants kidnappés la semaine dernière par des bandits armés. Ils appellent les autorités, dont le gouverneur Nord Kivu, à s'impliquer afin que les otages soient libérés dans un bref délai. D'après Fiston Boudoké, porte-parole d'une association de taxi-voitures, les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Au Cameroun, Emmanuel Matip, directeur du journal Climat Social, en détention depuis 16 mois, a été relaxé aujourd'hui. Reporters sans frontières et des syndicats de la presse camerounaise fustigent régulièrement la détention arbitraire de journalistes, critiques du pouvoir du président Paul Biya. Emmanuel Matip, accusé de propagation de fausses nouvelles, avait observé en mai dernier une grève de la faim pour dénoncer sa détention à la prison centrale de Kondengi de Yaoundé. L'ONG Amnesty International dénonce ce qu'elle qualifie de détention arbitraire de 2 journalistes togolais critiques vis-à-vis du pouvoir, Ferdinand Ayité et Joël Ega, respectivement directeurs de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative et de l'hebdomadaire Fraternité, ont été arrêtés pour leurs propos dans une émission diffusée sur Internet. Ils sont accusés de diffamation et outrage à l'autorité après des plaintes de 2 ministres. Amnesty réclame à leur libération immédiate. Un 3e journaliste qui a également participé au programme a été entendu par un juge et placé sous contrôle judiciaire. En Éthiopie, les rebelles tigréens ont repris le contrôle de Lalibela hier, 11 jours après que le gouvernement a dit s'en être emparé. C'est une ville emblématique dans le nord du pays. Elle abrite un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le point avec Jenny Kapombo-Villa.
Des habitants ont affirmé que des combattants du Front de libération du peuple du Tigré sont entrés dans cette ville de la région de l'Amhara. La chaîne Tigré TV, liée au TPLF, a déclaré que les troupes tigréennes se sont emparées de Lalibela ainsi que son aéroport et la localité de Gachena. Pour le moment, aucune déclaration du gouvernement éthiopien. Les communications sont coupées dans les zones de combat et l'accès des journalistes est restreint, ce qui rend difficile toute vérification indépendante. Par ailleurs, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va tenir vendredi une réunion extraordinaire sur la situation en Éthiopie à la demande de l'Union européenne. Bruxelles, avec le soutien de plus de 50 pays, a soumis lundi une lettre au président du CDH. Si un tiers des 47 États membres en fait la demande, le Conseil peut décider à tout moment de tenir une session extraordinaire.
Le président sud-africain a été testé positif au Covid-19 hier. Cyril Ramaphosa a entamé un traitement souffrant de symptômes légers de la maladie. Le chef de l'État, 69 ans, est entièrement vacciné. Il a commencé à se sentir mal après avoir quitté en milieu de journée la cérémonie officielle au Cap en hommage à l'ancien président Frédéric de Klerk, mort le mois dernier. Le variant Omicron est désormais à l'origine de la grande majorité des contaminations en Afrique du Sud. Pays africain le plus touché par la pandémie. De son côté, le Royaume-Uni indique qu'au moins une personne contaminée par Omicron est décédée. Le pays met les bouchées doubles pour que tous les adultes puissent recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid d'ici à la fin de ce mois. Face au raz-de-marée de ce variant très contagieux, le Royaume-Uni serait le premier pays à officiellement annoncer un mort dû à Omicron. Pour sa part, la Chine affirme avoir détecté son premier cas du variant Omicron du coronavirus. D'après les autorités, il s'agit d'un habitant de la ville de Tianjin qui est revenu de l'étranger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Première visite d'un chef de gouvernement israélien aux Émirats arabes unis. Naftali Bennett s'est entretenu à Abu Dhabi avec Mohamed Ben Zayed, l'homme fort de cet état du Golfe. Les précisions avec Abdourahman Zia.
Cette rencontre, qualifiée d'historique, vient sceller une nouvelle réalité dans la région. Les liens commerciaux ont été au cœur des discussions au deuxième jour de la visite de M. Bennett. Le premier ministre israélien a rencontré le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, qui a exprimé l'espoir que cette visite contribuera à des avancées positives dans la coopération bilatérale, selon l'agence de presse officielle émirati. Les deux hommes ont discuté des voies de coopération dans l'investissement, l'économie, le commerce et le développement, en particulier dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des énergies renouvelables, des hautes technologies et de la santé. Naftali Bennett est arrivé dimanche soir à Abu Dhabi, plus d'un an après la signature d'un accord sur la normalisation entre les deux pays le 15 septembre 2020. Depuis, les Émirats et Israël ont conclu plusieurs accords commerciaux, tourisme, aviation, services financiers, etc. Au-delà de l'économie, le dossier nucléaire de l'Iran fait partie des inquiétudes communes d'Israël et de ses nouveaux partenaires du Golfe.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé sa première tournée en Asie du Sud-Est aujourd'hui à Jakarta. Il a prévu de prononcer un discours sur la politique des États-Unis pour la région Indo-Pacifique au cœur de leur stratégie face à la Chine. Davantage avec Rosine Munezero.
Lors d'une rencontre avec le président indonésien Joko Widodo, Anthony Blinken a exprimé son soutien au leadership de l'Indonésie dans la région en tant que troisième plus grande démocratie au monde, défendant l'ordre international fondé sur des règles, selon un communiqué du département d'État américain. En Indonésie, puis en Malaisie et en Thaïlande, le secrétaire d'État va aborder le renforcement de l'infrastructure régionale de sécurité en réponse au harcèlement de la Chine en mer de Chine méridionale, a déclaré Daniel Kruttenbrink, son adjoint, avant le départ pour le sud-est asiatique. La région voit une montée des tensions en mer de Chine méridionale, alors que Pékin revendique la quasi-totalité de cette zone importante pour les échanges commerciaux, qui est également revendiquée par Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam. Mardi, Blinken doit ainsi prononcer un discours sur l'approche des États-Unis pour la région.
Le président américain Joe Biden a déclaré hier soir l'état de catastrophe majeure dans le Kentucky, devenu le symbole de la dévastation causée par des tornades qui ont fait au moins 78 morts dans plusieurs états du pays. La déclaration, effectuée à la demande du gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, va permettre de débloquer davantage d'aide fédérale. Le locataire de la Maison-Blanche va se rendre dans le Kentucky ce mercredi. Joe Biden a déclaré déploré ce qu'il appelle l'une des séries de tornades les pires de l'histoire du pays et a qualifié leur ravage d'inimaginable tragédie. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants, mais nombre de responsables ont averti que le bilan pourrait s'aggraver. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques. C'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza ce soir.
L'économie du Burkina Faso reste très dépendante du commerce international. Le ralentissement de l'activité au port d'Abidjan, Côte d'Ivoire, où arrivent de nombreuses marchandises destinées au Burkina, la hausse du coût du trafic maritime et la fermeture des frontières terrestres, seulement levées la semaine dernière, étranglent les populations les plus pauvres. Et à cause de l'insécurité, la population est privée des produits d'importation, ce qui fait grimper les prix. Plus de 3000 médecins angolais qui réclament de meilleurs salaires et conditions de travail ont annoncé la poursuite jusqu'à nouvel ordre d'une grève nationale. Le mouvement a démarré en début de semaine dernière. Le syndicat national des médecins réclame une amélioration des salaires des médecins et une augmentation des indemnités versées à la profession, notamment pour les gardes et les astreintes. L'économie marocaine se redresse avec une prévision de croissance de 6,3% en 2021. Cette reprise devrait se poursuivre dans les prochaines années, malgré les séquelles de la pandémie, indique le FMI. Selon Roberto Cardarelli, chef de mission du FMI, cette performance s'explique par le maintien des mesures de relance budgétaire et monétaire, par la bonne performance des principaux secteurs exportateurs, par le dynamisme des transferts des Marocains résidant à l'étranger, ainsi que par la récolte exceptionnelle qui a succédé à deux années de sécheresse.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec au micro Élisée Oumpatine. Bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun, c'est dans 28 jours et ce sera sans certains sélectionneurs, notamment Kenneth Rock, qui était en pause depuis 2016. Il a été limogé pour insuffisance de résultats selon les dirigeants du football nigérien, malgré la qualification pour les barrages de la Coupe du Monde. La défaite des Super Eagles contre la Centrafrique et le match nul concédé face au Cap-Vert auront scellé le sort du technicien franco-allemand. Son intérim sera assuré par l'ancien capitaine et ancien sélectionneur des Super Eagles, Augustine Eguavone. À l'instant du Nigeria, le Soudan aussi a limogé son sélectionneur Hubert Velude. Et c'est à l'issue de son conseil d'administration que la Fédération soudanaise de football a ainsi annoncé la révocation du staff technique dirigé par le Français. L'instance qui gère le football soudanais a mis en place un staff technique après concertation avec la direction technique nationale. En pause depuis janvier 2020, l'ancien entraîneur du TP Mazembe a pourtant qualifié les Crocodiles du Nil pour leur premier CAN depuis 9 ans. Mais la campagne totalement ratée à la Coupe arabe de la FIFA, 3 défaites en 3 matchs, a précipité sa chute. On se rend à présent en Europe et on connaît finalement les affiches des 8e de finale de la Ligue des Champions. La première étant annulée après la boule des boules et on aura de belles oppositions notamment entre deux anciens vainqueurs Inter de Milan-Liverpool. Manchester United fera finalement face à l'Atlético Madrid et le PSG, le Real Madrid. Alors que lui était promis dans un premier temps une double confrontation contre les Royal Devils, le club de la capitale française affrontera finalement l'équipe de Carlo Ancelotti. Et puis tenant du titre, Chelsea sera bel et bien opposé aux Français de Lille. Pour le reste, le Bayern de Munich croisera les Autrichiens de Salzbourg pendant que Manchester City sera opposé au Portugais du Sporting. De son côté, la Juventus de Turin jouera Villarreal et Benfica Lisbonne, la Jam Amsterdam. A noter que l'UEFA a procédé également au tirage au sort des barrages de la Ligue Europa, ultime étape avant les huitièmes de finale. Et reversé de la Ligue des Champions, le FC Barcelone sera opposé à Naples dans un match qui s'annonce palpitant. Dans les autres rencontres, le RB Leipzig croisera la Real Sociedad, également très attendu. Borussia Dortmund, Glasgow Rangers, FC Séville, Dynamo Zagreb, Atalanta de Bergame, Olympiakos, Zenit Saint-Pétersbourg, Betis Séville, Sheriff Tiraspol, Sporting Braga et puis FC Porto, Lazio de Rome.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Les dirigeants ouest-africains de la CDAO, réunis en sommet au Nigeria hier, ont de nouveau exigé des élections en février prochain au Mali. Ils vont imposer des sanctions supplémentaires dès le 1er janvier, sans engagement des autorités maliennes en ce sens. Comment les Maliens réagissent-ils à ces décisions de la CDAO? Élément de réponse avec Mohamed Danioko, notre correspondant à Bamako.
Après les sanctions individuelles prises contre plusieurs autorités de la transition qui ont consisté à geler leur avoir et leur interdire de voyager, la CDAO vient de menacer le Mali d'aggraver ses sanctions si elle ne tenait pas les élections, notamment la présidentielle, le 27 février 2022. Une décision qui, selon Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme, n'est pas surprenante.
Moi, je pense que la position de la CDAO n'a rien de surprenant ni d'étonnant. Ce qui est plutôt surprenant, c'est que les gens s'étonnent de cette prise de position de la CDAO. Parce que dès le début, c'est ce qui a été dit. Lorsque le pays prend des engagements, il est tenu de les respecter. Les engagements régionaux et internationaux. De jusque-là, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, cette prise de position de la CDAO face à ce qu'on peut appeler un dialogue de sourds. Parce que lorsque la CDAO demande un calendrier pour les élections, les autorités maliennes répondent par un courrier pour renvoyer la question des calendriers au résultat des assises nationales.
Ces sanctions additionnelles vont, selon les chefs d'État de la CDAO, entrer en vigueur en janvier 2022 si, entre-temps, il n'y a pas d'assurance de la part des autorités de la transition. Simbouye Cissé, membre du Conseil national de transition, dit comprendre la CEDEAO. Il pense que les autorités de la transition doivent très vite donner un chronogramme.
De la part des autorités de la transition malienne, ce qui est tout à fait normal, effectivement, à un moment donné, il va falloir donner une date. On ne peut pas donner une date tout de suite tant qu'il y a les assises nationales et la refondation en cours. Les recommandations qui sortiront de ces assises-là vont nous permettre de savoir la tâche qui nous attend.
Pour justifier un report électoral, le gouvernement malien invoque l'insécurité persistante. Malgré cette situation, des Maliens pensent qu'il faut aller très vite vers l'organisation d'une élection pour sortir de cette période transitoire.
La balle maintenant est au camp maintenant du gouvernement de la transition qui doit tout faire maintenant pour aller au terme de ces assises le 26 décembre. Maintenant, prendre ses conclusions et les recommandations de ces assises et les montrer à la communauté internationale, au peuple malien, et commencer maintenant à la mise en œuvre maintenant de ces recommandations et conclusions.
Les assises nationales qui ont commencé le 11 décembre dernier et qui prendront fin le 30 décembre vont certainement permettre de rendre public un chronogramme détaillé des élections. Mohamed Danioko, depuis Bamako, pour la VOA.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Bénin, les produits alimentaires et vestimentaires affichent des prix alléchants pour attirer les consommateurs à quelques jours des fêtes de fin d'année. Il s'agit de produits qui ne sont pas toujours de bonne qualité, mais les acheteurs se laissent emballer par leurs prix bas sans se soucier des conséquences. Le ministère béninois du commerce se dit conscient du danger et multiplie les descentes inopinées dans les marchés. Il mène également une campagne de sensibilisation pour freiner l'invasion des marchés par des produits avariés et frelatés, comme nous allons l'entendre dans le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le moment est favorable à la vente des vêtements, de toutes sortes, des produits de décoration, des denrées alimentaires et autres. Les commerçants à cette période déversent sur le marché des invendus de l'année écoulée et des nouveautés afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et dans le lot se retrouvent de nombreux produits impropres à la consommation, comme les boissons alcoolisées ou non.
Ces produits périmés pullulent sur les étalages.
Jules Dissin fait partie des équipes du ministère qui démantèlent fréquemment ce genre de réseau.
Pour les fêtes dernières, les gens se sont approvisionnés pour vendre, mais peut-être ils n'ont pas tout écoulé. Aujourd'hui, le phénomène est partout au Bénin. Vous avez constaté que de nos jours, il y a beaucoup de cas d'AVC. Et les gens s'interrogent, on dit, mais est-ce que ce n'est pas des envoûtements? Non, c'est ce que nous consommons qui induit tout cela.
Il y a quelques jours, les usagers du marché d'Antokpa, l'un des plus grands marchés du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest, ont démasqué un grossiste qui a déversé sur le marché des tonnes de sacs de blé et de bouteilles de mayonnaise sans date de péremption. Un piège selon certains acheteurs qui l'ont forcé à fermer sa boutique. De nombreux produits comme ces deux-là ont inondé le marché.
On doit interpeller celui qui distribue le produit pour qu'il veille à aller à la source pour inscrire les dates de péremption sur le produit. Sinon, ça va faire 100 ans.
Je lui ai posé des questions pour comprendre. Elle a dit qu'elle même elle a vu qu'avec cet état, personne ne va acheter parce que ce n'est plus consommable. Et que c'est sous l'effet du soleil, de la chaleur, que ça s'est transformé ainsi. C'est que tous les produits ne supportent pas la chaleur.
Pendant que certains appréhendent cette prolifération de produits frelatés, d'autres y voient une porte de sortie. Tant que la date de péremption n'est pas si avancée, on peut se laisser tenter, pensent de nombreux consommateurs.
Si réellement c'est expiré, on ne peut pas vendre. Ça, c'est grave. Mais si ça reste encore 2 mois, là, on peut vendre. Comme tu sais que tu as acheté ton truc, ça reste 2 mois pour expirer. Ça veut dire que tu as vite consommé avant les 2 mois. Mais quand on dit liquidation, ce n'est pas forcément que les produits sont déjà primés, mais ça veut dire primés qu'on fait liquidation. Il y a d'autres, c'est toujours en forme parce que, bon, comme il n'y a plus de vente, il veut liquider.
On doit quand même faire attention à ces genres de produits.
Robin Akrambessi est membre de l'une des associations des consommateurs. Il explique ne pas comprendre comment ces genres de produits se retrouvent sur le marché malgré toutes les précautions prises.
Et les organisations de consommateurs sont là comme un dispositif d'alerte pour appuyer l'État à mieux jouer ce rôle. Là où il y a des points de distribution non maîtrisables par l'État, nous, organisations de consommateurs, nous faisons tout pour aller identifier ces points de distribution pour remonter l'information à l'État. Mais malgré ce que nous faisons, on constate quand même que ces commerçants indélicats contournent toujours le dispositif mis en place.
Au ministère du Commerce, l'heure est à la sensibilisation. Il ne faudrait pas qu'en plus du Covid, on soit obligé de combattre une intoxication alimentaire ou d'autres soucis sanitaires liés à l'achat de produits impropres à la consommation, pense pour sa part Alessandra Botton, nutritionniste.
Il faut beaucoup faire attention. Comme nous sommes en période de difficulté, les gens n'arrivent pas à écouler leurs produits. Voilà que c'est la fin de l'année, ils profitent de la fête et ils jettent ces produits qui ne sont pas des produits consommables. Aucun produit de bonne qualité ne peut coûter largement en dessous du prix réel. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
De Cotonou, Jeanette Le Adandé pour VOA Afrique.
Au Gabon, fin du premier trimestre de l'année scolaire, une période émaillée de bout en bout par la grève des enseignants. Les syndicats revendiquent notamment la réorganisation du concours interne et de meilleures conditions de travail. En réaction à ce mouvement qui dure depuis le début des cours en septembre dernier, le gouvernement gabonais menace de radier les grévistes et fait part d'un recrutement direct de nouveaux enseignants. Les explications de notre correspondant Ali Libreville, Ismaël Obiangze.
Sam Marumbu est un jeune enseignant d'histoire-géographie. En poste depuis 2018, il vit encore sous le régime de pré-salaire.
Lorsque on a son pré-salaire, dès qu'on a payé son domicile, on a fait un peu le marché, un peu de médicaments, eh bien, il n'y a pas d'épargne. On essaye de se mettre en cours particulier auprès des parents qui nous sollicitent. Ça nous aide au moins pour nos transports au quotidien, pour pouvoir nous rendre à notre poste de travail.
Du fait de la grève des enseignants, le calendrier scolaire de l'année connaît de fortes perturbations au grand dam des élèves.
Depuis que j'ai commencé, j'ai seulement fait un seul cours.
J'ai reçu 4 profs pour le moment. Prof d'anglais, prof d'histoire et prof d'SVT.
Et pour contraindre les grévistes à reprendre le chemin des salles de classe, le ministère de l'Éducation nationale a pris une série de mesures, allant jusqu'à la menace de radiation des meneurs du mouvement.
Les enseignants n'ayant pas regagné leur poste d'affectation, suspension de solde. Les enseignants absents de leur poste depuis au moins 3 mois lancement de la procédure de radiation.
Ce communiqué de la tutelle, lu à la télévision nationale, est visiblement loin de dissuader. Les syndicats d'enseignants réunis à l'Assemblée générale le week-end dernier ont plutôt durci leur position. Alain Mangouadi, ex-secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale.
Donc, ce sont les paroles en l'air. Nous savons que notre grève est une grève légitime, ce n'est pas une grève politique. Nous attendons plutôt que le ministre vienne sur la table de négociation avec les choses concrètes, comme nous avons parlé lors de notre réunion du 15. Il sait ce que nous demandons. Nous demandons le guichet unique, nous demandons la commission ministérielle, nous demandons le concours interne, nous demandons les rappels. Qu'il vienne nous proposer des choses concrètes, nous allons voir comment nous pourrons sortir de cette crise.
Pour le gouvernement, pas question de reculer sous la pression des enseignants grévistes. Professeur Patrick Mugyama Daouda, ministre gabonais de l'Éducation nationale.
Si on est absent à son poste de travail pendant 3 mois, les dispositions qui sont prévues, c'est la radiation. Évidemment, en respectant les procédures prévues à cet effet. La campagne de recrutement direct que nous allons lancer, elle est prévue depuis les États généraux, elle est prévue depuis la Task Force.
Selon le gouvernement qui annonce une révision du calendrier scolaire pour pallier le retard occasionné par la grève, ce sont environ 20% des enseignants qui sont actuellement en grève dans plusieurs localités du pays. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent dans les régions touchées par des tornades et des conditions météorologiques extrêmes à la fin de la semaine dernière. Le président américain Joe Biden a déclaré une urgence fédérale dans certaines régions et a promis le plein soutien de son administration. Des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité ou de chauffage à l'approche de l'hiver. Reportage d'Arash Arabassadi de la VOA, avec le récit de Claire Morin-Gibourg.
Des tornades ont ravagé plusieurs États américains, tuant des dizaines de personnes, le Kentucky étant le plus durement touché. Au moins 64 personnes sont mortes dans le Kentucky, selon un nouveau bilan annoncé par son gouverneur, Andy Beshear, qui dit s'attendre à ce que ce chiffre augmente pour atteindre plus de 70, peut-être même 80. Et au moins 14 morts ont été enregistrés dans des États voisins. Les autorités s'attendent à ce que ces chiffres augmentent avec la recherche qui continue. L'administratif de la FEMA, l'Agence fédérale américaine de gestion des urgences, Dean Criswell, a déclaré à ABC que la mission de l'agence est de sauver des vies.
Nous voulons vraiment nous assurer que nous trouverons quiconque qui pourrait encore être piégé dans les décombres dans tous ces états. Mais ensuite, ce sera une longue convalescence. Nous voulons vraiment nous concentrer sur la façon dont nous allons aider avec les besoins immédiats en matière d'hébergement et les besoins de logement à long terme qui seront vraiment nécessaires pour aider ces communautés et ces familles à se reconstruire.
Des images satellites montrent des plans avant et après de l'Arkansas et du Kentucky qui capturent la dévastation des tempêtes qui ont rasé des communautés entières et envoyé des décombres à plus de 160 km. Alors que le froid hivernal s'installe, certains survivants qui ont perdu leur maison ont trouvé refuge dans des abris d'urgence. Concernant l'aide aux sinistrés, le gouverneur démocrate du Kentucky, Andy Beshear, s'est exprimé dimanche dans l'émission Rencontre avec la presse sur NBC.
Nous avons ouvert des centres d'accueil chauffés. Nous en avions 13 ouverts. Seuls 6 sont encore ouverts, car ceux d'entre nous qui ont la chance de ne pas être touchés directement par cette tornade hébergent d'autres personnes, même s'ils ne les connaissent pas. Nous sommes de bonnes personnes qui veillent les uns sur les autres, qui viennent de traverser quelque chose d'incroyablement difficile. Mais nous sommes résilients et nous reconstruirons.
Le Kentucky est jusqu'à présent le seul État à demander et à recevoir un état de catastrophe majeure de l'administration Biden. L'administratrice de la FEMA, Dean Criswell, a déclaré que l'agence comptait environ 100 personnes sur place, y compris des équipes de recherche et de sauvetage, mais ajoute que le prochain défi consiste à mettre les survivants en sécurité.
Ce très mauvais temps qui se produit pendant ces mois froids, cela aggrave les impacts. Et encore une fois, travailler à fournir un abri sûr et sécurisé aux individus afin que nous puissions les protéger des éléments sera une priorité.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voaafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.